cours de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 7 janvier 1986.
On pourrait continuer la topique que nous avions commencé au premier semestre. Il faut mettre un terme. Alors, nous allons entrer dans le problème proprement philosophique de la philosophie politique. Je dis bien un problème proprement philosophique. On ne fait pas de la politique, mais on fait une philosophie politique. La politique, on la fera quand on votera. Vous ferez un acte politique à ce moment-là, de voter, pour savoir pour qui il faut voter. Ça exige un acte de prudence. Ça exige un minimum d'informations. Mais comme les informations sont tellement difficiles à avoir, que si on invite un communiste à vous faire une petite conversation, si on invite un socialiste à faire une petite conversation, si on vous invite tel ou tel, vous verrez que toujours l'objectivité est à base d'une subjectivité transcendantale politique. Et la subjectivité transcendantale politique ramène tout à soi, à son parti. C'est ça qui est extraordinaire. C'est intéressant philosophiquement de suivre ce que représentent les partis politiques. Parce que les partis politiques deviennent des partis politiques dans une dialectique. Il peut y avoir des partis politiques au niveau philosophique. Alors c'est quand les partis sont finalisés par le tout. Mais quand les partis se finalisent par eux-mêmes, en s'opposant au tout, nous sommes dans la dialectique. Alors je crois qu'on est en pleine dialectique politique. Essayez de comprendre ça, parce que c'est intéressant quand même. Vous allez faire un acte de citoyen. Vous n'en faites pas tellement. Oui, tous les jours, on en fait. Dans la mesure où vous cherchez la vérité, vous faites un acte de citoyen. Mais pas très extérieur, tout à fait au-delà des partis. Quand on fait la philosophie de la politique, on est au-delà des partis. C'est pour ça que ça intéresse absolument pas les partis. Tandis que quand vous allez voter, vous allez entrer dans les différents partis. Puisque en votant pour un parti, vous excluez les autres. Et pourtant, je crois qu'il faut voter. Parce qu'on pourrait dire, moi je ne vote pas parce que je ne veux exclure personne. Je suis pour le tout. Mais comme il n'y a pas de parti du tout, vous êtes bien obligé. C'est terrible. Parce que c'est un acte qui n'est pas très humain. Je crois que les partis politiques tels qu'ils sont aujourd'hui ne sont plus humains. Ils ne sont plus politiques du tout. Ça, c'est la faillite de la politique. On assiste à ça, quoi. Il faut le reconnaître. C'est situation limite. Pour une vraie politique, on est en situation limite. Parce que tous les partis, mais tous, il n'y en a pas un qui regarde l'homme. S'il n'y en a pas un qui regarde l'homme, il n'y en a aucun qui sont politiques. Ils regardent un par un aspect. Je commence ça parce que c'est intéressant, puisque nous aurons des votations, comme on dit en Suisse. On aura des votations. Alors comme on aura des votations, il faut essayer d'y réfléchir. Ça doit être un acte humain. Pour vous, un acte chrétien. Pour vous, un acte religieux, pigre. Si tu es capax, est-ce qu'un parti est baptisable? Il faut se poser les questions, quoi. Autrement, on fait ça machinalement et bêtement. Si on vote, on fait un acte politique. Un acte politique doit être un acte prudentiel. La prudence politique, on fait partie d'un tout. Beaucoup d'entre nous fait partie d'un tout qui est la France. Ceux qui ne sont pas français ont l'immense avantage de ne pas devoir voter ici. Mais ceux qui sont français doivent voter. L'Église nous le demande. Normalement, un religieux ne devrait pas voter. Ne devrait pas. C'est ce qui se met en dehors. Alors, on fait un acte de prudence politique. Un acte de prudence politique doit être finalisé pour le bien de l'homme. Autrement, ce n'est plus un acte politique. Mais je commence par là, puisque c'est par là que nous allons voir ce que c'est que la philosophie politique. C'est notre expérience. Nous n'avons pas beaucoup d'expérience politique. Nous avons très peu d'expérience politique, mais quand même un tout petit peu. Quand vous conduisez une voiture, vous avez une expérience politique. Vous observez la droite. Et vous faites un acte politique quand vous ne dépassez pas la vitesse. Si vous êtes bien avec le petit copain d'à côté, gendarme, vous dites, il n'y a pas de danger, je les connais, ils nous connaissent, on peut y aller. Vous êtes partisan. C'est plus le bien commun. Et ainsi de suite. C'est la passion qui l'emporte. La passion de la vitesse. Record de vitesse. Je veux aller à Lyon. Moins de temps possible. Plus vite possible. On n'a jamais été aussi vite. Record de vitesse. C'est la passion, ça. C'est pas politique. Donc, on vote pour un parti. Il faut se demander si ce parti peut être baptisé. Si tout est scapax. Si cette politique n'est pas contraire à nos principes religieux, à nos principes de croyants. Si c'est un parti qui ne peut pas être baptisé, est-ce que je peux poser un acte de prudence humaine? Peut-être, peut-être. Les chrétiennes, sûrement pas. Alors, notre acte doit être un acte de prudence humaine, politique, chrétienne. Je ne dis pas une politique chrétienne. Peut-être c'est par rapport à l'individu, par rapport à la personne. Il faudra se poser la question, y a-t-il une politique chrétienne? Est-ce que le jugement de certains sur telle ou telle, je ne nomme personne, en disant, c'est celui qui est le plus proche de la politique chrétienne, c'est celui-là pour qui il faut voter. Est-ce qu'il y a une politique chrétienne? Ou est-ce qu'il n'y a qu'une politique humaine, d'inspiration chrétienne? C'est pas la même chose. Il faut vous poser quelques grandes questions. Alors quand vous votez, vous devez vous voter sur savoir si le contenu de cet homme politique qui se présente, dans la mesure où il donne quelques affirmations, sont conformes ou non conformes à notre foi chrétienne. Nous n'avons pas le droit de voter pour quelqu'un qui explicitement dit des choses qui sont contraires à notre foi chrétienne. Il vaut mieux s'abstenir. Je crois. Alors vous allez me dire, ah, attention, si je m'abstiens, c'est celui qui est encore plus loin de la politique chrétienne qui va passer. Alors là, c'est le moindre mal qui intervient. En politique, le moindre mal peut intervenir. Donc normalement, on ne voterait pas. Mais en fonction d'un péril du gros chien qui est là et qui va immédiatement passer, si on ne met pas un obstacle. Alors je peux voter pour mettre un obstacle. C'est possible, politique du moindre mal. Et dans certains cas, ça peut être quelque chose de nécessaire. Vous voyez que le jugement politique est différent du jugement éthique. Y a-t-il en éthique personnelle le moindre mal? Je ne crois pas. En politique, ça existe. Il faudra comprendre pourquoi. En politique, vous pouvez donner un conseil comme cela. Vous devez voter pour celui-là. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est le moindre mal. Et vous voterez pour le moindre mal. C'est pas très drôle. Vous ne mettrez rien sur votre bulletin en disant « c'est le moindre mal ». Je vote pour vous parce que c'est le moindre mal. Alors à ce moment-là, ce serait nul. Alors ça ne marcherait pas non plus. Mais le moindre mal, est-ce que c'est un jugement prudentiel, politique? Est-ce que c'est un jugement prudentiel, éthique? Puis alors, dernier aspect, religieux. Un religieux, normalement, de vœux perpétuels. Tous ceux qui ne sont que des novices, c'est différent. Mais un religieux de vœux perpétuels, de vœux solennels, est mort à la communauté politique. Je vous ai déjà dit, la petite expérience que j'ai eue en allant à Fribourg, sitôt la guerre, où il y avait des Français qui étaient là, dans des situations tragiques, qui venait demander un aide. Et le canton de Fribourg donnait droit d'asile s'il y avait un tuteur. C'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un qui se portait responsable pécuniairement de cette personne. Et donc c'était un acte humain de miséricorde et un acte chrétien de miséricorde. Venait d'arriver, quelqu'un m'a demandé d'être un peu son tuteur, comme ça, au point de vue de l'État. Après une petite enquête, je me suis dit, je crois que je dois le faire. Je l'ai fait. Et l'État m'a renvoyé le papier en disant, votre signature ne vaut rien puisque vous êtes un religieux. Il faut que votre signature soit contresignée par votre prieur. Puisque l'importance pour nous, s'il y a des dettes, c'est vous qui payez. Alors, j'ai fait contresigner par mon prieur. C'est un petit peu difficile, parce que il n'était pas de même nationalité. Alors c'était un peu difficile, mais après il a compris. Et alors l'État a accepté, parce qu'il y avait la signature du prieur. L'Albertinum portait la responsabilité. Et comme l'Albertinum avait bonne presse, puisqu'il y avait quand même un certain nombre de professeurs qui gagnaient leur vie de cette manière, comme fonctionnaires suisses, ça portait son pesant d'or. Donc c'était accepté. Tandis que la signature d'un pauvre religieux qui ne recevait pas un seul sou de son salaire de fonctionnaire, comme professeur, ça ne valait rien du tout. C'était très juste. Ça vous fait comprendre certaines choses qu'on comprend quelquefois moins bien. Ce que je ne vois pas en France, qu'on renverrait ça. Tandis que là, c'était encore cet ancien régime. Le religieux comme tel n'a pas le droit de vote. L'Église demande aux religieux de voter. L'Église pourrait très bien nous dire tous les religieux de vœux perpétuels et de vœux solennels ne votent pas. Et vous n'auriez pas le droit de réclamer. Vous auriez le droit simplement de dire, c'est normal. Comme l'Église demande que des religieux ne fassent pas le service militaire. Le droit canon le dit. On n'a pas le droit de s'engager dans la dernière guerre. Il y avait eu l'appel de Gaulle. Continuer la guerre. Bon. des religieux qui étaient engagés avaient-ils le droit de répondre à l'appel de De Gaulle? Problème de conscience. Certains ont répondu, d'autres n'ont pas répondu. Parce que, en tant que religieux, on n'a pas le droit de porter les armes. Surtout si ce religieux est prêtre. On n'a pas le droit de porter les armes. En tant que prêtre, on n'a pas le droit de porter les armes et tirer sur son voisin en disant qu'il est un ennemi, puisque on est un homme de paix. Et donc le droit canon est très explicite. Lisez le droit canon. Le droit canon nous demande de ne faire aucun acte positif dans ce sens-là. Obéissance à l'Église, même si on n'est pas d'accord. Obéissance à l'Église. L'Église demande qu'on vote. Et donc on doit obéir à l'Église. Obéir à l'Église, c'est de ne voter que pour quelqu'un qui explicitement n'est pas en opposition vis-à-vis de ce que l'Église nous dit. C'est très important de préciser notre conscience politique. Un acte politique relève de la prudence politique. Alors, qu'est-ce que c'est que la prudence politique? Vous voyez, nous commençons l'éthique par l'amitié. Nous commençons la politique par une expérience d'un acte politique. Il faut bien. Si notre philosophie politique est réaliste, elle repose sur une expérience politique. Votre expérience politique, c'est lorsque vous votez. Donc, vous avez au moins une expérience politique quand vous votez. Quand vous faites votre service de coopération, vous faites un acte politique. Et vous devez réfléchir sur ce que doit être ce service de coopération dans cet acte politique. Quand vous mangez, est-ce que vous faites un acte politique? Vous faites un acte humain, j'espère. Faites un acte religieux, j'espère, que vous mangez ou que vous buviez, faites tout pour glorifier Dieu. Donc faites un acte religieux. Il peut devenir un acte religieux. Vous pouvez manger comme une brute, parce que les brutes mangent. Et vous pouvez manger comme religieux, parce que les religieux mangent. Pas en tant que religieux, mais en tant qu'homme. Mais ils peuvent faire que leur acte humain devienne religieux. Vous mangez pour glorifier Dieu. En mangeant ce qui vous est offert, si c'est excellent, les jours de fête, vous glorifiez Dieu. Si c'est imbuvable, vous glorifiez Dieu en disant, je le prends par vertu, c'est merveilleux pour mon ascèse. Je glorifie Dieu quand c'est bon et quand c'est mauvais. La gloire de Dieu dépasse le goût. C'est extraordinaire. La gloire de Dieu transcende ces petites distinctions que nous faisons entre une soupe merveilleuse, une soupe qui a toute l'amertume de la semaine. Alors, la gloire de Dieu transcende. C'est bien évident. Et donc, vous pouvez vivre votre repas du soir, du midi, d'une façon religieuse. C'est une belle cérémonie, sans grimace. Une belle cérémonie, merveilleuse, vous glorifiez Dieu. Est-ce que c'est un acte politique? Oui, c'est un acte politique. Manger et boire, c'est un acte politique. Forcément. C'est ici, vous voyez, où on est devant tout de suite quelque chose de très intéressant. Puisque je pars de mon expérience politique. C'est à partir de mon expérience politique que j'essaie de faire une philosophie politique. Si j'avais aucune expérience politique, je répéterais ce que dit Aristote. Et en répétant ce que dit Aristote, je ferais œuvre d'historien de la philosophie politique. Je ne ferai pas une philosophie politique. Tandis que si j'ai la moindre expérience de ma philosophie, d'un acte politique, je peux, à partir de là, élaborer toute une philosophie politique. C'est pour ça que c'est important de voir où repose le réalisme d'une philosophie politique. Quand vous dormez, est-ce que c'est un acte politique? C'est un acte humain. C'est un acte religieux, parce que vous vous endormez à l'heure prescrite. Alors c'est un acte d'obéissance. Quand on vous dit, ne vous fatiguez pas trop, vous êtes déjà trop fatigué, c'est un acte d'obéissance religieuse. Donc c'est un acte qui fait partie de votre vie. Et c'est aussi un acte politique. Et vous voyez, pas dans l'obéissance. Parce que jusqu'ici, Mitterrand ne nous a pas dit, bon citoyen, couchez-vous à telle heure. Pas encore. Mais ça pourrait arriver, n'est-ce pas ? Que tous les citoyens doivent se coucher à telle heure, comme dans une vie religieuse. Alors on demanderait la possibilité de se coucher un peu plus tard, parce que, ou ainsi de suite. Alors il faudrait sans doute un permis d'un médecin qui nous permette de faire ça. C'est un acte politique de dormir. Est-ce que votre travail intellectuel est un acte politique? Est-ce que faire de la philosophie, c'est un travail politique? Ainsi de suite. Vous voyez, posez-vous la question par rapport à toutes vos activités. Si je regarde Maritain, puisque Maritain existe, au niveau position philosophique, politique, si je regarde Cachetan, au niveau politique, si je regarde Saint-Thomas, au niveau politique, Maritain fait cette distinction. L'individu est parti de l'État. La personne est au-delà de l'État. Est-ce que cette distinction est valable? Je dis non. Parce que l'homme, en tant que personne, est un homme politique. L'homme n'est pas uniquement un animal politique. En tant qu'individu. Donc c'est une distinction qui ne vaut pas, parce que manger, c'est un acte de l'individu. C'est l'animal individuel qui mange. Mais c'est un acte en même temps humain. Si c'est un acte humain, c'est un acte personnel. Tout ce que vous faites en tant que citoyen, vous le faites en tant que personne. Et pas uniquement en tant qu'individu. La distinction que fait Maritain entre individu et personne ne marche pas. Parce que tout acte politique, humain et personnel, il est individuel et personnel. Mais parmi mes actes personnels, il y en a qui échappent à l'aspect politique. Et c'est peut-être ce que je dois tout de suite regarder pour bien saisir le domaine propre du politique parmi mes expériences. Je dois tout de suite essayer de comprendre si dans ma vie humaine, si dans ma vie religieuse, il y a des actes qui sont apolitiques, ou si au contraire, toute mon activité de religieux est politique. Là, c'est un tri qu'on doit faire dès le point de départ. Et ce que dit Maritain entre individu et personne, à ce point de vue-là, est très intéressant. Parce que Maritain s'est tout de suite posé la question. Y a-t-il dans ma vie personnelle des actes qui sont apolitiques? Quels sont dans votre vie personnelle des actes qui sont apolitiques? Quels sont les actes qui sont politiques? Je crois que nous pouvons tout de suite saisir qu'il y a des actes dans notre vie personnelle qui sont apolitiques. Les actes les plus personnels, c'est vrai. Aimer, choisir l'amitié de quelqu'un, c'est pas politique. Donc l'amour d'amitié n'est pas politique. Si vous dites à quelqu'un « je t'aime en raison de tes opinions politiques », je t'aime parce que tu votes exactement comme moi. Je t'aime parce que tu aimes beaucoup Mitterrand. Tu es grand ami de Mitterrand. Les amis de nos amis sont nos amis. Je t'aime parce que tu aimes beaucoup aimé De Gaulle. Je t'aime parce que... Et ainsi de suite. Vous voyez bien que cette amitié n'est pas une véritable amitié. Elle repose sur une opinion commune. Et une opinion politique. Donc ce n'est pas une amitié au sens fort, puisque vous aimez quelqu'un en fonction de ce qu'il est, et non pas à cause de ses opinions politiques. Des amis pourront être de très bons amis, ayant des opinions politiques différentes. Le jour des élections, il vaut mieux pas qu'ils se rencontrent. Tout simplement. La prudence consiste à savoir que cet ami m'est très cher, mais quand il s'agit de politique, il vaut mieux pas qu'on en parle. Parce que nous avons des jugements totalement différents. Ça peut très bien se faire, ça. Et ça n'entrave pas tellement une amitié profonde. Évidemment, une amitié profonde demanderait peut-être que, pas toujours, pas toujours. C'est curieux, ça. C'est un fait très curieux. L'amitié est au-delà du point de vue politique. Ça, je crois que nous pouvons tous faire cette expérience. Et que nous devons tous faire cette expérience, si nous ne l'avons pas encore faite. Il y a quelque chose dans l'amitié qui est au-delà du point de vue politique. Il y a quelque chose dans la contemplation qui est au-delà du point de vue politique. Nous pouvons tous connaître de vrais contemplatifs ou de vrais contemplatives qui n'ont pas les mêmes opinions politiques que nous. Ça peut se faire. Ça peut nous sembler curieux, étrange. C'est curieux, cette contemplative que je connais. Oh, c'est merveilleux comme contemplative. Mais elle vote diamétralement opposée que moi. Elle a des opinions politiques. Ça existe quelquefois. Non seulement chez les contemplatives, mais chez d'autres personnes, qui sont des prêtres, des évêques, même le pape, du point de vue politique, peut très bien ne pas avoir les mêmes opinions. Vous voyez, c'est curieux. Je ne parle pas du pape actuel, je parle du pape habite comme pape, pas nécessairement actuellement. C'est différent. Il y a donc des domaines dans ma vie humaine qui échappent au domaine politique. Le point de vue politique ne m'apparaît pas comme totalitaire. Attention. Est-ce que pour certains, le point de vue politique ne sera-t-il pas totalitaire? Est-ce que pour certains, le point de vue politique ne sera-t-il pas l'absolu? Au-delà du politique, il n'y a rien. Et le politique commande tout. Je ne peux épouser que quelqu'un qui votera exactement comme moi. Condition sine qua non pour la validité du mariage. S'il ne vote pas exactement comme moi, non. Je l'aime beaucoup, mais j'en fais le sacrifice. Sur l'autel de la patrie. J'en fais le sacrifice. Parce que, pour moi, le point de vue politique, c'est l'absolu. Ça existe. Ça existe. Cette attitude pan-politique ou pan-politique, ça dépend comment vous l'appelez, c'est la totalité. Le politique enveloppe tout et prend tout. Quelquefois même jusqu'aux convictions religieuses et quelquefois théologiques. Quelquefois théologiques. Le point de vue politique passe avant tout. On entend ça, des critiques de temps en temps, vous voyez. Au moment où il y a eu en France les grandes secousses de l'Action française, que j'ai connu encore ces choses-là, les grandes secousses de l'Action française, mais c'était très vivant, ça. L'attitude de Maurras. Est-ce que Maurras, dans sa philosophie politique, mettait la politique au-dessus de la famille, au-dessus des traditions religieuses, au-dessus de l'Église? Ou est-ce que Maurras, personnellement, respectait la diversité? Je crois que Maurras, personnellement, respectait la diversité, mais beaucoup de Maurrassiens ne la respectaient pas. Ça, c'est un fait. Parce que ça arrive souvent, vous savez. Les chefs politiques sont quelquefois plus nuancés que ceux qui suivent. C'est pour ça que quand on écoute ceux qui suivent, on ne comprend pas ce que dit celui qui est à la tête. Dans toute école, c'est comme ça. Et alors, au point de vue politique, c'est toujours beaucoup plus gros. Mais ce sont de ces problèmes-là qu'on doit se poser, voyez, au point de départ. Alors, pour réfléchir sur l'expérience politique que nous avons. Et à partir de quelle expérience politique nous allons essayer d'entrer dans le point de vue politique. Si notre philosophie est une philosophie réaliste, il faut que ce soit à partir de nos expériences politiques que nous allons essayer de faire la politique. Et non pas à partir d'a priori. Ah, mon grand-père était royaliste, donc je le suis. Mon arrière-grand-père l'était, soyons fidèles aux traditions. Ça peut être très noble, ça peut être très beau, mais ce n'est pas philosophique. Je regrette. La fidélité au grand-père n'est pas philosophique. La fidélité au grand-père, au point de vue politique, a peut-être beaucoup de grandeur, mais ce n'est pas philosophique. Vous allez me dire, mais en politique, ça joue. Ah oui, je comprends que ça joue. C'est là où les a priori sont les plus forts. Parce que c'est là où peut-être les principes sont les plus faibles. C'est là où l'expérience est la plus difficile à analyser. Alors c'est là où les principes jouent. Les principes avec les passions. De tradition, dans notre famille, on est toujours comme ça. Ça se dit, ça. On a tous entendu ces choses-là. De tradition, on est révolutionnaire. On est Robespierre. Fidélité à la Bastille. Ouais. Alors on voit très bien ces choses-là. Oui, qu'est-ce que ça représente au point de vue philosophique? Pas grand-chose. Ce sont des a priori. Voilà. C'est intéressant de les saisir. Et de voir que ces a priori sont différents selon chaque pays. La politique française est quelque chose de très difficile à comprendre pour un Allemand. Encore plus pour quelqu'un qui est en Amérique. Encore plus pour un Chinois. Pour un Chinois, c'est du Chinois. La politique française, complètement. Je me souviens de ce grand mandarin extraordinaire qui vivait à Paris, qui était prêtre. Cette petite politique française, quand il disait ça, on voyait ce que c'est tout. Cette petite politique française, chez nous, c'est autre chose. Ça prenait une autre dimension. Et c'est vrai. Il faut être de l'intérieur d'un pays pour comprendre ce que c'est que les traditions. Et on comprend très bien. Il y a des traditions politiques. Il ne faut pas les négliger. Mais les traditions politiques doivent être critiquées. par le point de vue philosophie politique. Je ne peux pas baser ma philosophie politique sur des traditions politiques, si respectables qu'elles soient, et si profondes qu'elles soient. Mais il y a des traditions politiques. Ça, c'est important de saisir ça. Alors, je reviens toujours à cette question. Est-ce que je peux saisir dans ma vie des actes qui sont au-delà du point de vue politique, qui sont apolitiques? Je dis, je vérifierai au terme que l'amour d'amitié, la contemplation, je crois que je peux le dire, toute ma prière intérieure, contemplative, n'a rien à voir avec le point de vue politique. Ma prière liturgique, c'est différent. Alors il faudrait savoir si la liturgie est liée, si tel ou tel aspect liturgique, tel aspect du chant liturgique est lié à telle ou telle tradition politique. Oh, ce serait très curieux, ça. Ce serait très intéressant, du reste. Les interférences de la liturgie et de la politique. Il y a un problème, puisque la liturgie est politique. Oui. Il y a des sujets qu'on ne peut traiter qu'au niveau philosophique. Parce que si vous les traitez en dehors de la philosophie, alors les passions se déchaînent, surtout au niveau liturgique et au niveau politique. Et les interférences des deux, c'est prodigieux. Ça fait sauter toute espèce de chose. Il faut les regarder au plan philosophique. Il est évident que la prière liturgique, la prière communautaire, a un aspect politique. Toute communauté et toute vie communautaire a un aspect politique. Tandis que la solitude est apolitique. Votre journée déserte est apolitique. Et plus vous seriez dans le désert, plus vous seriez apolitique. Alors évidemment, si vous choisissez le désert pour être apolitique, c'est un faux désert. C'est ce qu'Aristote dit. Celui qui est ermite devient ou comme un dieu ou comme une bête. Si votre désert est choisi pour la contemplation, la journée de désert, c'est pour la contemplation. Alors vous devenez comme un dieu. Si votre journée de désert est choisie pour être en dehors de la vie commune, vous devenez comme un animal. Très curieux, ça. C'est vrai que le désert et la journée de désert est en dehors du point de vue politique. Elle est apolitique. Alors, vous voyez, essayer, c'est la première chose qu'on doit faire. Et ça, on doit le faire chacun d'entre nous. Relevez toutes vos activités et mettez un point. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est pas politique? Pourquoi c'est politique? Pourquoi c'est pas politique? Vous verrez que tout ce qui est communautaire est politique. Tout ce qui est purement d'intérieur échappe à la politique. Tout ce qui est solitaire dans votre vie échappe à la politique. Puis il y a des zones neutres qui ne sont pas nécessairement politiques, qui peuvent être politiques et qui peuvent très bien ne pas l'être. Donc il faut déceler, détecter dans nos activités ce qui relève de l'aspect politique et de ce qui est au-delà de l'aspect politique. Ce qui est immergé dans la politique et ce qui n'est pas immergé dans la politique. Et comment arriver à déterminer dans nos activités ce qui est politique et ce qui n'est pas politique. Quel est le critère? Pas seulement un. La jugeote. Ou ça, c'est tout à fait en dehors du point de vue politique. On dit pourquoi? Ah, j'en sais rien. le sens comme ça. Qu'est-ce qui est le critère? Alors, vous voyez, là, tout de suite, vous posez une question très intéressante. Est-ce que la finalité personnelle est politique? La finalité personnelle, c'est la contemplation et l'amitié. La politique présuppose l'éthique. Hein, donc, j'ai le droit de le dire. Est-ce que ma finalité contemplative, est-ce que ma finalité d'amitié est d'ordre politique? Je dirais non. C'est une finalité personnelle. Oh. Alors tombera sous le point de vue politique tout ce qui implique une communion avec les autres. Dans l'amitié, il y a quand même une communion. Il y a une communion avec les autres. Oui, mais c'est une communion personnelle et intérieure, en premier lieu. C'est un choix libre. Personne ne s'est imposé là. Donc il y a un choix libre qui est au-delà du point de vue politique. Mais il peut y avoir, alors, une communauté, il y a un travail communautaire qui devient politique. Quel sera le critère? À quel moment je passe de l'amitié à l'aspect politique? Quel est le passage qui me permet de comprendre ce qui est purement personnel et ce qui est communautaire? Pas si commode que ça à répondre. Je crois qu'on peut dire que dès qu'il y a un bien commun, je suis en face de l'aspect politique. Le bien commun est plus facile à détecter que l'aspect politique. Et l'aspect politique dépend du bien commun. Donc, c'est un critère. Dès qu'il y a un bien commun, or il y a un bien commun dès qu'on est trois. Dans l'amour d'amitié, on est deux. Dans le bien commun, on est trois. Tiens, c'est curieux, c'est le vieil adage. Pour qu'il y ait communauté, il faut qu'on soit trois. Pour qu'il y ait communauté, il faut qu'il y ait un bien commun. Et le bien commun, c'est le bien qui n'est ni votre bien personnel, ni le bien amical. C'est ce qu'est le bien commun. Il est commun à trois. Ah, c'est une première manière de déterminer ce qui est vraiment politique de ce qui n'est pas politique. C'est peut-être même la grande façon, et peut-être même l'unique façon, par la finalité. Ce qui est mon bonheur personnel, ma fin personnelle, que personne ne peut m'enlever. Je touche là quelque chose de proprement individuel et personnel, mais tellement individuel et personnel que c'est au-delà du point de vue politique. Tandis que dès que je suis en face du bien commun, je reconnais que ce bien commun, il me met dans un aspect qui n'est plus l'amitié et qui n'est plus personnel, qui n'est plus la solitude. Je crois que c'est la première façon de déterminer ce qui, dans ma vie, relève du point de vue politique et de ce qui relève du point de vue personnel, par le point de vue de la finalité. Puis-je avoir un autre critère? Parce qu'il faut toujours se demander s'il y a d'autres critères. Un autre critère au niveau de la prudence. Il y a une prudence politique, il y a une prudence personnelle. Ça aussi, je peux en avoir l'expérience. La prudence est commandée par la finalité. Donc, s'il y a une prudence politique et une prudence personnelle, c'est parce qu'il y a deux finalités différentes. L'acte prudentiel, comme tel, est le même. C'est la même prudence. Alors, je pourrais peut-être essayer de saisir par le point de vue prudentiel, saisir ce qu'il y a de commun entre l'aspect politique et l'aspect personnel. Je saisis là qu'il n'y a pas de frontière et d'opposition. Plus je suis engagé dans une vie personnelle, plus je serai engagé dans une vie politique. Sauf celui qui opte pour la solitude. Autrement, plus je suis engagé dans un point de vue personnel d'amitié, plus je suis capable d'être engagé vis-à-vis du bien commun. Il n'y a pas d'opposition. Et je ne peux pas mettre d'opposition. Parce que la prudence monastique et la prudence politique relèvent de la même vertu. Il me semble bien. On vérifiera. Donc, si c'est la même prudence, je peux voir que l'exercice sera différent au niveau de l'ordre des moyens. Mais, profondément, ce seront deux actes de vertu prudentielle. Donc là, je comprends comment dans la personne humaine, l'aspect politique et l'aspect proprement humain, singulier, ont une profonde identité. C'est le même homme qui est finalisé et c'est le même homme qui accepte l'engagement politique. Ce n'est pas deux hommes différents. Et ceci, c'est pour montrer que la distinction de Maritain entre individu et personne ne vaut